Aujourd'hui, nous allons vous raconter la vie d'Ovide et nous allons parler de métamorphose et nous allons vous lire l'Icaron et l'orgueil de la reine. Ovide, de la gloire à l'exil. Ovide, né dans le centre de l'Italie en 43 avant Jésus-Christ, un an après l'assassinat de Jules César. Son vrai nom latin est Publius Ovidius Naso. Le surnom de Naso lui viendrait d'un lointain ancêtre qui avait, dit-on, un grand nez. D'une famille aisée, il est élevé à Rome et fréquente les écoles des plus grands maîtres. Pour obéir à son père, il étudie le droit, mais il est très tôt attiré par la poésie. À 18 ans, il part pour un long voyage dans le but de compléter son éducation. Il séjourne à Athènes, puis voyage en Grèce, en Sicile et en Asie mineure.
De retour à Rome, il connaît très tôt la célébrité et devient le poète favori de toute la haute société, surtout après le décès de Virgile, un autre poète latin plus âgé que lui. Il écrit essentiellement des recueils de poètes liés à l'amour. Les amours, l'art d'aimer, les remèdes à l'amour notamment. Ses relations avec l'empereur Auguste seront compliquées. Celui-ci offrira d'abord un gage d'admiration. Un magnifique cheval, mais le 19 novembre de l'an 8 après Jésus-Christ, Ovide est exilé par décision d'Auguste pour une raison qui nous est inconnue. Il part donc vivre à Tomes, dans l'actuelle Roumanie, où il arrivera après 6 mois de voyage, accompagné seulement de ses esclaves. Il souffre énormément de son éloignement de Rome et écrit des textes d'une grande tristesse, les tristes et les pontiques. Ovide tentera en vain de revenir à Rome. Il meurt après 8 années d'exil en 17 après Jésus-Christ.
Comment Ovide a écrit les Métamorphoses? Ovide commence probablement à écrire les Métamorphoses en l'an 1. Il les raconte dans un long poème de 15 livres et près de 12 000 vers de 6 syllabes, des hexamètres, la naissance de l'univers et l'histoire du monde gréco-romain jusqu'à l'assassinat de Jules César.
Lycaon, devant les dieux, Jupiter se plaint de la férocité d'un homme, Lycaon. Il ajoute quel fut son crime, quelle est la punition, c'est ce que je vais vous apprendre. Et Jupiter raconte son arrivée chez le roi Lycaon qui garde en otage des hommes d'un autre peuple, les Molos. Je donne des signes du caractère divin de ma venue et le peuple commence à m'adresser des prières. Tout d'abord, Lycaon se moque de ses marques de respect religieux, puis il s'écrie
« Je vais bien avoir par une épreuve déterminante si c'est un dieu ou un mortel, la vérité sera indiscutable. »
Pendant la nuit, dans mon profond sommeil, il se prépare à me surprendre et à me donner la mort. Voilà par quelle épreuve il lui plaisait de connaître la vérité. Mais cela ne lui suffisait pas. De son épée, il coupe la gorge à un des otages, envoyé par le peuple des Molos. Ensuite, dans de l'eau bouillante, il ramollit une partie de ses membres, encore palpitant. Et l'autre partie, il la fait rôtir sur le feu. À peine les avait-il posés sur la table, qu'avec ma foudre vengeresse, j'ai renversé sur lui sa maison, demeure digne d'un tel maître. Épouvanté, il s'enfuit. Parvenu dans la campagne silencieuse, il se met à hurler et il s'efforce en vain de parler. Toute sa rage se concentre dans sa bouche, sa soif habituelle de carnage se tourne contre les troupeaux.
Maintenant encore, il se complaît dans le sang. Ses vêtements se changent en poils, ses bras en jambes. Il devient un loup et conserve encore des traces de son ancienne apparence. Même couleur claire de poils, même air farouche, même yeux ardents. C'est toujours la même image de la férocité. Ovide, les Métamorphoses, livre 1.
L'orgueil d'Arachné. La déesse grecque Athéna, que les Romains ont assimilée à Minerve, est une déesse guerrière, mais elle préside aussi aux arts et aux techniques. Elle veille sur les activités féminines. Elle est la patronne de celles qui cuisinent, qui filent, tissent et brodent. Elle-même excelle dans ses travaux, mais elle a beau être la déesse de la sagesse, elle ne supporte pas qu'on ose se mesurer à elle. La fille d'un simple teinturier, Arachné, a conquis une grande renommée dans l'art du tissage. Souvent, les nains descendent de la montagne pour admirer ses merveilleux ouvrages. C'est un plaisir aussi de la voir travailler. Elle file elle-même la laine duveteuse que son père teint ensuite. Puis elle tisse des étoffes aux motifs variés, aux couleurs vives et parfois brode par-dessus à l'anguille.
C'est si beau que les nains prétendent qu'elle doit avoir pris des leçons auprès d'Athéna. Mais ces compliments ne sont pas du goût de la jeune fille.
Des leçons d'Athéna? Mais qu'elle vienne donc se mesurer à moi. Je suis sûre que je vaux mieux qu'elle. Si je suis vaincue, je me soumets à tout.
Athéna prend l'apparence d'une vieille femme, aux tempes couvertes de cheveux blancs. Un bâton soutient ses membres affaiblis. Elle s'approche de la jeune fille et lui tient ses propos.
Crois l'expérience de l'âge et ne dédaigne pas mon conseil. Tu peux prétendre être parmi les mortels la plus habile pour le travail de la laine, mais incline-toi devant la déesse et demande-lui humblement pardon pour tes propos insolents. Ce pardon, elle te l'accordera si tu l'implores.
Pauvre vieille folle,
répondit Arachné en jetant sur elle des regards farouches.
Si tu as une fille ou une brute, garde tes conseils pour elle. Moi, je n'ai besoin de personne pour me dicter ma conduite. Ma résolution n'a pas changé. Et pourquoi la déesse ne vient-elle pas elle-même? Pourquoi évite-t-elle de se mesurer à moi?
Elle est venue,
dit alors la déesse.
En abandonnant son aspect de vieille femme, elle apparaît dans toute sa majesté. Arachné devrait mourir de terreur, mais c'est à peine si elle rougit. Elle s'entête de son dessein et, poussée par son désir stupide de remporter la victoire, court à sa perte. La fille de Jupiter relève le défi et, sans perdre un instant, chacune dresse un métier à tisser et tend les fils de la chaîne. Puis la navette est guidée par leurs doigts agiles pour faire passer la trame. Leurs bras travaillent vite, elles ne sentent pas la fatigue. Dans leur ouvrage se mêlent toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Elles ne ménagent pas pour la poupre et les fils d'or. Sur le tissu se déroulent des scènes antiques. Athéna représente l'acropole d'Athènes et la colline de l'Aéropage, sur laquelle un débat l'opposa à Neptune pour la possession de la ville. Les 12 dieux du ciel, rangés autour de Jupiter, sont assis sur des sièges élevés. On les reconnaît à leurs attributs. L'image de Jupiter est celle d'un roi. Neptune, debout, frappe le sol de son trident pour faire jaillir une source d'eau salée. Athéna se représente avec un bouclier, une lance et un casque. L'égide couvre sa poitrine.
Elle frappe la terre de sa lance et il en sort un jeune olivier chargé de fruits devant les dieux admiratifs. Des branches d'olivier encadrent ce tableau. À titre d'avertissement, elle figure aux quatre coins de la toile des compétitions entre les dieux et les hommes. Compétitions qui tournent toutes à la déroule des mortels. Arachné, elle, représente toutes les scènes où, sous une apparence trompeuse, Jupiter et d'autres dieux ont abusé des mortels. Pluie d'or, cygnes, grappes de raisin, taureaux, dauphins, les subterfuges n'en manquent pas. Le bord de la toile est décoré d'une frise de feuilles de lierre entrelacées de fleurs. À cet ouvrage, ni Athéna, ni l'envie elle-même ne pourra trouver à redire. La déesse aux cheveux blonds est si dépitée d'un tel succès qu'elle déchire l'étoffe colorée qui reproduit les fautes des dieux et de sa navette qu'elle tient, encore à la main, elle frappe le front d'Arachné.
La malheureuse Arachné ne put supporter l'humiliation et dans son dépit, elle s'attache autour de la gorge un lacet et se pend. Mais la déesse adoucit son destin.
Tu ne mourras pas insolente, mais tu resteras suspendue et le même châtiment frappera toute ta descendance.
La déesse verse sur elle la sève d'une herbe qu'elle avait empruntée à Hécate et touchée par ce fatal poison, Les cheveux d'Arachné tombent ainsi que son nez, ses oreilles, sa tête, son corps rapetissent. Des maigres jambes s'attachent à ses flancs. Tout le reste n'est que ventre. Devenue araignée, elle s'applique comme autrefois à tisser. Métamorphose d'Ovide, 15e siècle.